Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Réginald Allouche, médecin, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et Philippe Gérard, directeur de la recherche à l'INRAE, spécialiste du microbiote intestinal et du métabolisme. Référence scientifique internationale sur Akkermansia. Programme complet. Intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr. Cette émission vous est présentée par Nutrilogics, laboratoire engagé auprès des professionnels de santé. Nutrilogics offre des solutions naturelles, innovantes et durables pour que chacun vive en pleine santé et en équilibre dans son environnement.
Santé 360, Christian Boyer sur Nutri Radio.
Merci d'être avec nous. Bonjour Christian.
Salut Fabrice.
Christian Boyer sur Nutri Radio, chaque jeudi 17h-18h pour Santé 360, l'émission qui parle de votre santé de manière 360, évidemment. Le docteur Christian Boyer, docteur en biologie de la santé, il a également un master en nutrition humaine et physiologie, et spécialisé dans l'exploration et la prise en charge des déséquilibres du microbiote intestinal. Je peux dire que c'est un très très gros bosseur. Dès qu'il y a des études, je pense qu'il y a des nouveautés, on va le savoir par lui. Et on a une connexion d'ailleurs directe à chacun, à chaque heure du jour et de la nuit. Il peut intervenir sur cette antenne pour faire flash nouveauté, flash science. N'hésitez pas, mon cher Christian, comment allez-vous cette semaine?
Mais ça va très bien.
Ça va toujours.
On va parler d'un sujet intéressant que j'aime bien.
Vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui travaille toujours oriented, c'est que je digresse un peu tout de suite, bam, on me remet sur le sujet de l'émission et on va l'aborder dans un tout petit instant. Le temps pour nous de remercier notre partenaire sur cette émission Santé 360, le laboratoire Nutrilogics, un laboratoire engagé auprès des professionnels de santé. Il formule d'ailleurs avec des experts pour vous proposer, chers auditeurs, les produits les plus efficaces. Donc merci à eux, c'est important d'avoir des partenaire engagé, je le dis toujours, sinon bon bah on ferait de la radio mais on ferait ça de notre côté et on dérangerait personne. On pourrait pas le faire. Bon allez, c'est parti pour le sujet du jour. Le temps quand même pour moi de vous rappeler qu'il est important aussi, si vous nous écoutez sur le live du Nutri Radio et surtout si vous nous écoutez en podcast, eh bien pensez à vous abonner, à faire des commentaires, à partager pour nous donner encore un peu plus de force. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ces émissions, mais voilà, si vous pouvez penser à vous abonner, c'est important de le dire, paraît-il. Donc je le dis, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, tout ce que vous voulez, vous êtes sur Deezer ou des plateformes même encore inconnues, des agrégateurs de podcasts comme ça, pensez à vous abonner. Et puis NutriTV aussi qui est là, rendez-vous sur www.nutritv.fr pour des masterclass à ne pas rater. J'espère qu'on en aura une avec le docteur Christian Boyer, s'il nous fait l'amitié de pousser sa charrette jusque dans nos studios. Quand je dis charrette, je sais pas, vous avez une voiture?
Oui, j'en ai une, j'utilise pas souvent, mais j'en ai une.
Bon, très bien, mais vous êtes un petit peu loin, mais on réussira, j'espère, à s'organiser. Les biotiques contre-attaque, ça, c'est un titre d'émission que vous avez trouvé pour cette émission donc, du jour, et je dois dire que j'aime assez, parce qu'on c'est assez imagé. Déjà, rappelez-nous ce que sont les biotiques.
Ah, les biotiques, c'est une grande famille. Alors, il y en a que dont les noms parlent à tous, et puis d'autres qui sont peut-être un petit peu moins connus. Je sais parce que des fois, quand je cite justement ces termes-là, on fait les grands yeux et je dis « Ah, tiens, celui-là, je suis content, c'était un truc que les gens ne connaissaient pas. » Donc, dans les biotiques, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a les probiotiques. Alors ça, c'est tout le monde sait ce que c'est. Ce sont des bactéries vivantes, des organismes vivants qu'on va prendre en supplément et puis qui ont un bénéfice pour la santé. On a les prébiotiques. Alors ce sont des fibres ou des composés qu'on dit non digestibles qui vont servir de nourriture à nos bonnes bactéries. Alors là, je pourrais un petit peu mettre, comment dire, un petit warning, parce que évidemment, quand on prend des prébiotiques, c'est pour aller nourrir justement les bonnes bactéries, mais après, attention, il y a aussi des fois des bactéries un peu pathobiantes, hein, qui peuvent aussi se nourrir de ces fibres. Donc attention, quand on donne des prébiotiques, ça ne veut pas dire qu'on va forcément nourrir que la bonne flore. Ça peut aussi, dans des cas aussi de dysbiose, provoquer des problèmes. Donc attention quand même à leur utilisation. Donc pro-prébiotiques, et quand on met les deux ensemble, ça fait les symbiotiques. On ne s'est pas embêté sur les noms. Il y a aussi des choses qui commencent à être un petit peu plus connues, sont un petit peu plus nouvelles, on va dire, sur le marché. C'est l'ère des post-biotiques. Alors, les post-biotiques, ce sont des probiotiques, en gros, qu'on a pris, qu'on a pasteurisés, par exemple. Donc, on les a inactivés par la chaleur et donc ils sont morts. Ces postbiotiques, c'est souvent alors soit des micro-organismes, comme j'ai dit, inactivés par la chaleur. Ça peut être aussi un mélange de certains de leurs composants, voire même des composés qu'ils auraient pu produire dans leur milieu de culture. Donc c'est un petit peu tout ça, le postbiotique. Donc dans le postbiotique, il n'y a plus rien entre guillemets de vivant, mais ça peut quand même marcher, et même des fois plus que la bactérie vivante. C'est ça qui est étonnant. Donc j'ai dit pro, post, symbiotique.
Oui.
Et maintenant il y a les psychobiotiques aussi. Alors les psychobiotiques, ce sont des probiotiques. C'est juste que ils ont, on les appelle donc psychobiotiques. C'est un nouveau nom qui est apparu il y a quelques années pour définir une classe de probiotiques qui aurait des impacts positifs sur toute la sphère, on va dire, neuropsy, et je dirais même au niveau du système, un petit peu aussi de l'axe intestin-cerveau d'une manière générale. Donc, ce sont des psychobiotiques qui ont eu des études cliniques chez l'homme pour pouvoir prouver leurs bénéfices sur cette sphère justement neuropsy et sur l'axe intestin-cerveau.
Alors, excusez-moi, mais je vous interromps une petite seconde, parce que l'axe intestin-cerveau, microbiote, deuxième cerveau, on le dit, en quoi les psychobiotiques, forcément, ils ont une action sur le cerveau, mais peut-être tout autant que les post, les pré, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est quoi ? C'est une stratégie marketing, ou c'est vraiment, il y a des actifs vraiment différents ? Les psychobiotiques sont vraiment différents des postbiotiques, des prébiotiques ?
Alors, la définition même du psychobiotique, c'est que ce sont des probiotiques. Voilà, sont des probiotiques, donc ce sont des bactéries vivantes. C'est juste qu'on a un niveau de preuve. Il y a eu vraiment des études qui ont montré que cela, on a des études claires qui ont montré, par exemple, un effet sur la sphère cognitive, ou un effet sur la réduction du stress ou de l'anxiété. Ils sont plus spécifiques. Après, ça ne veut pas dire que des probiotiques qui ne seraient pas classés dans les psychobiotiques ne seraient pas aussi des psychobiotiques. Oui, voilà. On peut l'ignorer parce qu'il n'y a pas eu les études, ou chez certains, en régulant un autre problème, ça peut avoir un effet aussi intéressant sur justement la sphère neurocognitive. Bien évidemment, les prébiotiques, en nourrissant directement nos bonnes bactéries au niveau du microbiote intestinal, ont aussi un effet, on va dire, indirect sur la santé neuropsy. Donc, effectivement, il n'y a pas que les psychobiotiques qui peuvent être utilisés. Mais voilà, c'est intéressant, parce que si on cherche dans les probiotiques, quelqu'un a envie de prendre des probiotiques pour justement agir sur son stress, son anxiété, sur ses, par exemple, ses niveaux de cortisol, pour réguler ces problématiques-là, il ferait mieux de se diriger directement vers des psychobiotiques, parce qu'il sait qu'il y a eu des études derrière et qu'on a un niveau de preuve qui montre que c'est des probiotiques qui sont spécifiquement recommandés pour ça.
Bon, et vous allez, j'espère, nous en citer quelques-uns dans cette émission. Oui.
Bien évidemment, je vais en citer quelques-uns.
C'était juste la question pour faire un petit teasing, parce que là on va marquer une toute petite pause, mais c'était juste pour savoir, vous voyez, parce que là je suis tellement impatient maintenant. Et d'ailleurs, il y a encore une classe dont on n'a pas parlé, qui est encore moins connue, parce que là déjà je sais pas si dans cette grande famille des probiotiques, voilà, il y a les pré, il y a les post, il y a les psy, et il y en a encore une qui va arriver. On vous en parle dans un instant avec le docteur Christian Bouillet, c'est sur Nutri Radio.
Vous êtes passionné de santé, professionnel ou simplement acteur de votre bien-être? Découvrez Nutrilogix. Notre vision, être une référence en santé naturelle et innovante. Notre mission, offrir à chacun des solutions accessibles et durables pour vivre en pleine santé et en équilibre avec son environnement. Parce que la santé de demain se construit aujourd'hui. Nutrilogix, révolutionnons la santé.
Santé 360, Christian Boyer sur Nutri Radio.
Les probiotiques, les prébiotiques, les postbiotiques, les symbiotiques, les psychobiotiques et tous ceux qu'on va encore trouver. Il y en a encore d'autres et dont un, vous allez nous le donner. Je ne sais pas si on pouvait faire un jeu radio. Est-ce que vous connaissez ces probiotiques-là? Est-ce que c'est vraiment des spécificités précises et ou une stratégie marketing? Ça, c'était ma question tout à l'heure, mais vous m'avez dit oui, il y a des études qui sortent et qui vont attester de l'efficacité sur telle ou telle chose, et donc plus on est précis, mieux ça nous permet de cibler aussi l'action et de prendre ce qu'il nous faut. Bon, j'ai dit qu'il en manquait un, même peut-être deux, j'en sais pas. Donc on a parlé des psychobiotiques juste avant, lesquels on a oublié, lesquels vous voulez nous faire découvrir?
Alors on a oublié un, effectivement. Puisqu'aujourd'hui, on est un peu sur radiobiotique, hein, on peut le dire.
Ah oui, ouais, c'est pas mal ça. On va faire une radiobiotique. C'est pas mal.
Un nouveau podcast radiobiotique.
Non, on aurait pu appeler cette émission. Ouais, on aurait pu appeler cette émission radiobiotique. On en parle pour la saison prochaine. Les négociations démarrent.
C'est ça. Alors effectivement, on a oublié une petite classe aussi qui est un petit peu moins connue. C'est un terme qui a été proposé. Ça a été proposé, si je ne dis pas de bêtises, par c'était pas des Québécois ou des Canadiens qui avaient fait, qui s'intéressent notamment aux polyphénols, qui ont proposé d'intégrer une nouvelle classe dans les biotiques justement, et c'est les duplibiotiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc dupli? On voit duplication. Qu'est-ce que voilà? À quoi ça correspond? Alors, ça correspond donc au polyphénol d'une manière générale. Ces polyphénols, c'est des composés bioactifs hein, qu'on retrouve d'origine végétale, hein, qui sont composés de plusieurs groupements phénoliques. Hein, on parle des polyphénols comme des antioxydants, des propriétés anti-inflammatoires, etc. Et il y a voilà, polyphénol, antioxydants, anti-inflammatoires. Ça parle bien aux gens. Et après, il y a une partie dont on parle peut-être un petit peu moins, mais qui est tout aussi importante, c'est l'effet modulateur du microbiote. L'effet justement de tous ces polyphénols. Alors, on en a plein, on a des classes, on a des familles, de grandes familles polyphénols. On a les flavonoïdes, on a les tanins aussi, qui sont des polyphénols. On retrouve notamment dans le vin. Alors, dans les tanins, on a les tanins hydrolysables. Ce sont, je dirais, eux qui sont peut-être un petit peu plus intéressants au niveau du microbiote. On a aussi les tanins condensés, non hydrolysables. Et donc, ces tanins hydrolysables, il y a par exemple des choses dont on connaît bien, comme les élagitanins. C'est par exemple tout ce qui est acide élagique qu'on trouve dans la grenade. L'acide élagique est assez connu pour son intérêt, notamment au niveau du microbiote, pour réduire les protéobactéries, par exemple, tout ce qui est Escherichia coli, Klebsiella, donc des bactéries qui ne sont pas forcément bonnes quand elles sont en quantité trop importante. Et donc, si je reviens sur les duplibiotiques, donc duplibiotiques polyphénols, ok, pourquoi on les a appelés duplibiotiques? Ça, c'est le nom. Alors, quand on regarde un petit peu le nom, duplibiotique, on comprend qu'il y a, en fait, c'est un peu, c'est ce que je dis, il faut imaginer une épée à double tranchant. Donc, il y a un tranchant de l'épée qui est l'effet, on va dire, antimicrobien du polyphénol, un effet, on va dire, régulateur et de réduction des mauvaises bactéries, on va dire ça. Et il y a un autre tranchant de l'épée qui est le tranchant doux, qui ne va pas couper et lui qui va augmenter les bonnes bactéries. Et donc là, on a vraiment un truc intéressant. Si on a parlé la semaine dernière des antibiotiques, et donc du coup, bah, les antibiotiques, eux, ils ne font pas la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries, et les polyphénols, ils ont cette capacité-là. Alors, ils ne sont pas intelligents, mais de par leur nature, ils vont du coup réduire les mauvaises bactéries tout en augmentant les bonnes, et ça, c'est génial. On a vraiment quelque chose qui est respectueux d'une manière générale l'ordre du microbiote et qu'on peut utiliser justement pour agir sur des dysbioses, sur des perturbations et de manière douce, je dirais. C'est vraiment un côté régulateur. Donc, voilà la petite histoire des duplibiotiques et de cette famille des polyphénols. J'avais parlé des tanins hydrolysables, les élagitanins qu'on trouve dans la grenade, donc l'acide élagique est assez connu et utilisé chez les professionnels qui sont spécialisés dans tout ce qui est microbiote. On aime bien, enfin moi j'aime beaucoup l'utilisation justement de ces polyphénols. Il y a aussi tout ce qui est resvératrol, donc ça on le connaît parce que c'est présent aussi dans le raisin, dans le vin. Donc resvératrol, au-delà de l'effet intéressant au niveau cardiovasculaire, au niveau antioxydant, etc., il y a un effet aussi intéressant au niveau du microbiote. Ça va agir un petit peu sur les arcs méthanogènes, ça augmente les bonnes bactéries, notamment ça augmente la kermantia. On a aussi l'apigénine, qui est un composé qu'on retrouve donc dans le persil, par exemple, ou dans le céleri. Alors évidemment, pas en quantité des fois suffisante pour avoir une action, de modulation du microbiote de manière importante. Donc après, il existe des suppléments, on peut retrouver de l'apigénine, justement. L'apigénine est intéressante parce qu'elle est anti-inflammatoire, elle augmente d'une manière générale les bonnes bactéries, elle réduit certaines mauvaises bactéries, comme les désulfovibrio, qui sont des bactéries productrices d'hydrogène sulfureux, ce qui donne notamment les gaz qui sentent l'œuf pourri, hein, pas très bon. Donc cette bactérie peut être responsable, et aussi très pro-inflammatoire. Donc on a tout un tas de duplibiotiques extrêmement intéressants, et il faut s'y intéresser, puisque ça fait partie de cette grande famille des biotiques, et vraiment intéressante à utiliser en combinaison avec le reste.
Et oui, et c'est pourquoi les... biotique contre-attaque, parce que je pense que tout cela nous mène à un tournant un peu aussi de vous me dites si je me trompe, hein, mais de la médecine un peu digestive, avec une approche axée vraiment microbiote qui peut transformer un peu la prise en charge des pathologies chroniques, quand on voit un peu la précision avec laquelle on va maintenant aller différencier ces biotiques, ces probiotiques.
Oui, exactement. On a, je pense que effectivement, dans la... Ça fait partie aussi de la nouvelle ère. Alors, il y a aujourd'hui, comme j'ai dit, il y avait aussi les postbiotiques, qui sont des bactéries qui ont été inactivées. Donc, ça aussi, ça commence à être de plus en plus connu. On développe de plus en plus de produits dessus. Il y a de plus en plus d'études. Donc, et les polyphénols et ces fameux duplibiotiques sont aussi de plus en plus mis en avant. Et surtout comme quelque chose qui est généralement sûr d'utilisation, puisque, comme je l'ai dit, il a pas un effet, il n'a pas un effet de destruction du microbiote. Il va réguler, donc réduire les mauvaises bactéries, augmenter les bonnes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, quand on donne les bons dosages, évidemment, assez sûr d'utilisation, assez intéressant, sans effet secondaire important. Et donc, effectivement, ça va rentrer dans la nouvelle ère des outils qu'on peut utiliser pour essayer de réguler le microbiote de manière précise, puisque contrairement, comme je disais, aux antibiotiques, certains en plus ont un large spectre qui peuvent tout détruire, les polyphénols, en fonction de telle ou telle bactérie en excès, on va pouvoir choisir le polyphénol qui diminue plutôt cette bactérie-là, ou tel autre polyphénol qui va augmenter, par exemple, les bonnes bactéries comme les bifido ou la kermantia. Donc c'est très intéressant comme produit à utiliser.
Ah, vous les aimez bien ceux-là. Je sens qu'ils attirent particulièrement votre attention et que vous allez encore y consacrer un peu de temps. Et d'ailleurs, tiens, d'une manière générale, concernant que ce soit les diplibiotiques, les psychobiotiques, les postbiotiques, les prébiotiques, est-ce qu'il faut favoriser une forme plutôt alimentaire ou genre les kéfirs, miso, choucroute, etc. ou alors les compléments?
Alors, pour les polyphénols, alors ils sont présents naturellement dans nos aliments, notamment les aliments colorés. Après, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas colorés n'ont pas des polyphénols. Il y a des aliments qui sont de couleur verte, et c'est la chlorophylle qui domine, et on ne voit pas les autres pigments, justement, comme les carotènes, ou on a des feuilles, par exemple les épinards, il y a bien un petit peu de carotène dedans, et on ne les voit pas jaunes comme les carottes. Mais donc, effectivement, l'alimentation apporte des polyphénols, donc ces fameux duplibiotiques de manière naturelle. Alors, les quantités ne sont pas les mêmes que dans les compléments. Donc, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui n'a pas de soucis de santé, qui est en bonne santé, pas de soucis de microbiote, évidemment qu'il va falloir manger varié et utiliser son alimentation. Il n'y a pas forcément besoin de prendre de suppléments de polyphénol. Mais pour des gens qui ont des problématiques, alors soit des personnes, des fois malheureusement, les troubles digestifs ne supportent plus les fibres, etc. Du coup, ils ne mangent plus de polyphénol, ils ne mangent plus que de la viande et du riz. Et là, justement, le supplément va pouvoir venir compenser le fait que ces personnes n'arrivent plus à manger suffisamment de fruits, de légumes. Donc, de la même façon qu'il n'y a plus assez de fruits et légumes, des fois, il va falloir compenser aussi et apporter des vitamines pour éviter les carences. Et de la même façon, on pense à apporter des fois des vitamines pour éviter des carences, notamment apporter de la vitamine B9 chez quelqu'un qui ne mangerait plus aucun légume vert. Mais on ne pense pas à se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans les légumes? Il y a des fibres, il y a des vitamines, mais il y a aussi des polyphénols. Donc, en fait, le supplément peut être utile à ce moment-là. Et chez tous les gens qui ont des dysbioses, des problématiques digestives, là, l'alimentation ne va pas suffire à apporter suffisamment, parce que là, on compte en milligrammes, l'apport des polyphénols, et il y a quelques milligrammes dans les aliments. Et des fois, on doit, dans les suppléments, monter à 100, 500 milligrammes, par exemple, de resvératrol. Et là, on ne pourra pas, via l'alimentation, pouvoir apporter suffisamment pour avoir un effet de modulation du microbiote. Donc, les suppléments peuvent être intéressants et même utiles et nécessaires dans certains cas. Et pour les probiotiques, alors, encore une fois, c'est très bien de manger des choses fermentées, du moment qu'on les tolère, il y a des souches bactériennes qui sont présentes dedans, il n'y a pas de souci. Quand on mange, par exemple, on boit du kéfir de lait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans exactement. On sait qu'il y a des bactéries, des levures, mais lesquelles? Personne n'est capable de nous garantir, de nous donner les souches qu'il y a dedans exactement, la quantité aussi. Donc, on n'a pas moyen de contrôler ni la quantité des micro-organismes qu'on ingère, ni vraiment leur nature, la souche, etc. Donc, l'intérêt des probiotiques, c'est de pouvoir choisir la souche qui nous intéresse ou les souches qui nous intéressent. Si le complément dit il y a 50 milliards de telles bactéries, là on sait qu'il y en a 50 milliards. Dans le kéfir, on ne sera pas. Ça dépend de où il est fait, par qui il est fait, quelles sont les souches, parce qu'on se les échange. Normalement, on se les donne gratuitement, les petits grains comme ça de kéfir pour ensemencer et faire du lait. Donc c'est très différent. Il y a, je dirais, ce qui est alimentaire. Ça restera les produits que j'ai cités, les produits fermentés, le kéfir. Et puis, il y a les compléments qui, là, vont être utilisés pour avoir une action ciblée, pour avoir une garantie de c'est bien telle bactérie, c'est bien telle souche, elle est bien présente en telle quantité, et pour agir en précision. Parce que, encore une fois, en fonction des dysbioses, vous pouvez, des fois, aggraver le déséquilibre en donnant les mauvaises bactéries, les mauvais probiotiques, entre guillemets. Parce que le probiotique module le microbiote, il le change lorsqu'on l'ingère d'une certaine manière. Et il y a des personnes, il faut pas donner tel probiotique parce que ça va trop augmenter une bactérie qu'elles ont déjà en excès. Et il faut donner plutôt tel autre probiotique. Et là, le seul moyen de contrôler de manière précise, c'est le complément. Via l'alimentation, on peut pas contrôler de manière précise les souches et la quantité qu'on ingère.
Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez Pollux ?
Oui.
Eh bien, écoutez, il arrive.
Salut, moi c'est Pollux. Alors, n'oubliez pas que ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste.
Voilà, consultez votre médecin généraliste, évidemment, parce que là, ce sont des informations d'ordre général, mais vous le savez, nous sommes pour une personnalisation de la médecine. Donc, et comme vient bien de l'expliquer d'ailleurs Christian Boyer, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, et peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviendraient pas. Donc, rapprochez-vous de votre médecin, faites les analyses nécessaires et ne vous complémentez pas sans avoir au préalable assuré que c'était bon pour vous. Cette émission sera en podcast dans 2 secondes sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir mon cher Christian.
Au revoir Fabrice, à bientôt.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio. Rendez-vous la semaine prochaine avec Christian Boyer.
Santé 360, Christian Boyer sur Nutriradio.